Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres sur, que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Alpa, à la page de l'émission Radicaux Libres. On aurait pu vous parler cette semaine de la guerre aux pauvres qui s'intensifie encore. Cette semaine, le sous-Macron nommé à Matignon annonce le triplement des contrôles contre les bénéficiaires de l'assurance chômage d'ici 2027 pour trouver des sous à récupérer. Puisqu'il faut des sous. Souvenez-vous, Gabriel Attal, en mai 2023, il est ministre des Comptes Publics et annonce un grand plan de lutte contre la fraude. Dans son ensemble, la fraude. Une page dédiée sur le site de son ministère énonce les 35 mesures de ce plan et un encadré résume les grands objectifs. Je cite. Les grands objectifs en matière de lutte contre la fraude. Fraude fiscale, plus 25% de contrôles fiscaux sur les particuliers, principalement les plus fortunés. Plus 3 milliards de recettes supplémentaires collectées d'ici 2027 grâce à la facturation électronique. Fraude douanière, 100 filières criminelles démantelées ou entravées par an à horizon 2025. 33 000 infractions révélées par an sur les envois de fret express et postal à l'horizon 2025. Et enfin, fraude sociale, 5 milliards d'euros de redressement par les URSSAF d'ici 2027, 3 milliards de préjudices détectés et évités par les CAF et les caisses de retraite. Voilà, c'était en mai 2023. Des objectifs chiffrés comme il se doit, On remarquera quand même que pour la fraude fiscale, c'est un pourcentage de contrôles fiscaux. En clair, une obligation de moyens qui est mise en œuvre. Après, si les polyvalents ne trouvent pas à redresser, les moyens engagés auront été là. On a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu. Parce que peut-être que les plus riches ont les moyens de faire de l'évitement fiscal, mais pas de la fraude. Alors que pour la fraude sociale, qui, rappelons-le, concerne essentiellement des employeurs indélicats ne déclarant pas leur personnel, les objectifs sont en quantité d'argent à récupérer. En clair, c'est une obligation de résultat et non plus de moyens. C'est comme ça, c'est par là que ça passe. Bien sûr qu'on fait des choses contre la fraude fiscale. On a fait ce qu'on a pu. Par contre, sur la fraude sociale, là, faut qu'on récupère un montant particulier. Et donc, du coup, ça va douiller. Mais les moyens, ils vont les mettre, les moyens. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a une obligation de résultat contre la fraude sociale, mais il y a aussi des moyens qui vont être mis en place. La preuve, le plan de bataille était annoncé en mai 2023. Attal, devenu Premier ministre, ne fait que continuer la feuille de route libérale d'attaque contre les protections sociales. Sous-jacent, le message de la multiplication des contrôles montre que les bénéficiaires des indemnités chômage sont encore nombreux à frauder. Puisqu'il faut tripler tout ça, puisqu'il faut encore et encore les contrôler plus. Dans la même veine, l'obligation pour les bénéficiaires du RSA. Je rappelle que le RSA, c'est 607 euros mensuels et que si vous avez des allocations logement, on vous défalque un montant de ce RSA. C'est une obligation. D'avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine, ça va être étendu à la moitié du pays. Et là, si vous écoutez ce qui est dit dans les médias, ça se passe super bien. Dans les 18 départements où ça a déjà été mis en œuvre. Comment ça se fait que ça se passe super bien? Moi, j'ai entendu le président du Conseil général de l'Aveyron, d'hiver droite, un libéral, qui disait que c'était vraiment bien. Alors peut-être que si on interrogeait des gens qui touchent le RSA et qui se retrouvent avec des obligations de trouver 15 à 20 heures d'activité par semaine pour pouvoir continuer à toucher leurs 607 euros, peut-être qu'on aura un autre son de cloche. Mais si on s'adresse aux décideurs, tout de suite, ça va tout de suite beaucoup mieux. Au boulot, les feignants, voilà ce qui s'inscrit en gros au fond de ma rétine quand je lis les annonces du sous-Macron nommé à Matignon. Le travail comme valeur cardinale, comme seul moyen de s'en sortir, comme il le dit. Alors les SDF qui ont un contrat de travail, les agriculteurs qui témoignent de leurs conditions de vie, les précaires à temps partiel qui font la queue aux soupes populaires, nous prouvent le contraire. Le travail, c'est pas du tout le seul moyen de s'en sortir, surtout quand il est organisé par des libéraux qui ont pour but de faire du profit sur notre dos. On aurait pu vous parler du rapport des forces de l'ordre au Pékin moyen. Cette semaine, les services de la défenseur des droits ont fait publicité d'un rapport intitulé « Déontologie et relations police-population. Les attitudes des gendarmes et des policiers ». Un rapport d'une vingtaine de pages basé sur une enquête faite dans 7 départements auprès d'un millier de gendarmes et d'environ 650 policiers, où on apprend, entre autres, que la confiance envers les gens n'est pas de mise pour les 3/4 des flics et 2/3 des pendeurs sondés, et que les 2/3 des sondés toujours voudraient aller plus loin dans l'usage de la force que ce qui est permis par la loi, bah, ce qu'ils font par exemple à Saïx, là, sur la crème arbre qui est une ZAD sur l'autoroute A69. Ouais, bah, par exemple, il est interdit normalement d'empêcher les gens de dormir. Bah, là, c'est pas le cas. Il est normalement aussi interdit d'empêcher le ravitaillement, notamment en eau. Eh ben là, c'est pas le cas non plus. Donc, comme quoi, y en a qui voudraient aller plus loin et puis il y en a qui le font. On apprend aussi dans ce rapport que prévenir la délinquance est la première mission des forces de l'ordre pour un policier sur 16 et pour un gendarme sur 4. Par contre, réprimer la délinquance, ah ben là, c'est la moitié de chaque côté. Ah, prévenir la délinquance, c'est pas notre truc. Ah, et puis surtout, on apprend aussi que la délinquance est surtout due à la tolérance de la justice, alors que la question sociale arrive loin, loin, loin derrière. Comme quoi, la propagande libérale sur le fait qu'on est tous responsables de ce qui se passe et qu'à aucun moment la société ne nous amène à avoir une attitude ou une autre, fonctionne à plein régime. Un rapport bien intéressant pour mieux comprendre pourquoi les gens ont peur quand ils sont en présence des uniformes. Et tiens, à propos de gens, voici la minute des enfants.
J'arrête.
C'est la minute des enfants.
Aujourd'hui, le P.
Le P comme police. Pour se protéger des rébellions des travailleurs, des travailleuses et des opprimés, le système compte sur un groupe de personnes armées et prêtes à utiliser la violence. C'est la police. Elle défend les privilèges des plus puissants et applique durement la loi pour les autres. En bref, la police veut que rien ne change et que les inégalités dans la société demeurent comme elles sont. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Ah bah, d'ailleurs, et ça va dans le même sens que le rapport qui dit que le but de la police, c'est de réprimer la délinquance. Ah, pas celle en col blanc. Bah non, là, ils ont pas d'ordre. On aurait pu vous parler du mouvement des agriculteurs qui s'est principalement déplacé au salon de l'agriculture, même s'il reste des actions ponctuelles, comme le blocage de l'autoroute A62 qui a lieu depuis le 20 février entre Montauban et Agen. Depuis le 20 février, c'est la FDSEA qui est à la manœuvre, ce qui montre le haut degré de compréhension de nos soi-disant représentants, hein, notamment Gérald Darmanin, quand il s'agit de défendre le productivisme. Là, il n'y a pas de souci. On n'envoie pas les CRS à des gens qui souffrent et qui défendent le productivisme. Ça, ils l'ont pas dit. Au salon de l'agriculture, avec le défilé des personnalités politiques qui viennent se faire voir auprès des veaux, vaches, cochons et autres animaux de la ferme, lundi 26 février, on a pu voir le gendre idéal de l'extrême droite, Jordan Bardella, qui répondait à une question d'un journaliste de l'émission Quotidien que l'on peut voir sur TMC.
Emmanuel Macron dit que la coordination rurale, c'est le bras armé du Rassemblement National. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'il est pris de paranoïa, de complotisme. C'est une dérive vers l'extrême droite d'Emmanuel Macron qui est assez inquiétante quand on est président de la République.
Alors là, franchement, la palme du surréalisme, c'est pour lui. Cette semaine, quand le président d'un parti d'extrême droite psychiatrise les idées d'extrême droite et s'en montre inquiet, on peut assurément se dire que dans une société réellement renversée, le vrai est un moment du faux. Et accessoirement, on peut se dire que la com fait vraiment dire mais n'importe quoi. On aurait pu vous parler des activités de plein air dans la Sarthe, puisqu'il y en a assez régulièrement des activités de... Oh là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Des activités de plein air, avec des gens motivés. Jeudi 29 février, un rassemblement avait lieu devant l'entrée principale du centre hospitalier du Mans pour matérialiser la grève du service des urgences, presque en entier, qui n'en peut plus de maltraiter des patients. Alors tout le service s'est mis en grève, et ben les voilà. Motivés.
Je vais prendre la parole au nom de l'intersyndicale. En Sarthe, le recours aux urgences du centre hospitalier...
Ah oui, le micro marche pas bien.
Allô ? La seule solution, pardon. Pour des milliers de Sartois, en raison d'une désertification médicale et de fermetures récurrentes des urgences de proximité. La demande de soins sur le territoire de la Sarthe croît, alors que l'offre, elle, parallèlement, diminue. Cela induit une concentration de l'activité sur notre établissement. Nous fonctionnons déjà en flux tendu. La crise de la psychiatrie cristallise encore davantage cette situation d'alerte et fait peser une tension supplémentaire sur les urgences. Et là, ça craque.
Ça craquelait avant un petit peu aussi, hein, depuis la fin des années 2010. Bah là, ça craque complètement. On a demandé à Gabriel Munier, chef du pôle psychiatrie au centre hospitalier du Mans, les raisons de la colère. Et elle nous a dit ça. On entend dire que ici, aux urgences, arrivent plein de gens qui devraient être pris en charge par la psychiatrie. Alors comment ça se fait qu'ils ne vont pas à l'EPSM ? Comment ça se fait qu'ils sont pris ?
En fait, ici, c'est les urgences générales. Au centre hospitalier du Mans, il y a un service d'urgence générale qui prend en charge l'ensemble des urgences, quel que soit le motif initial. Ce qui se passe ensuite, c'est que nous, on est une équipe de psychiatrie qui donnons un avis à la demande du médecin urgentiste pour dire s'il y a un besoin ou pas de prise en charge en psychiatrie. Quand c'est le cas, quand il y a besoin de prise en charge en psychiatrie, alors les patients doivent être transférés, notamment à l'EPSM sur le site d'Allonnes. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de lits, plus de place à Allonnes, donc les patients se retrouvent à attendre dans les couloirs des urgences. Alors, a priori, c'est normal qu'ils s'y adressent initialement, mais le problème, c'est que derrière, le parcours de soins est complètement bouché parce qu'il y a un manque de moyens en psychiatrie.
Ce que vous appelez le parcours de soins, c'est le fait que normalement, après les urgences, ils devraient être pris en charge dans une structure spécialisée.
Oui, tout à fait. Ça, c'est valable pour quelle que soit la spécialité. Les urgentistes font la prise en charge d'urgence et ensuite, lorsque il y a besoin de soins spécialisés, les patients sont transférés dans les bons services. Et c'est le cas aussi pour la psychiatrie. Sauf que la psychiatrie, aujourd'hui, c'est bouché, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de place.
Alors là, par exemple, je voyais des pantins avec des noms indiqués et puis des choses qui s'étaient passées. En l'occurrence, une personne pendant 11 jours attachée à son lit, ça peut être le genre de chose qui est du quotidien aux urgences du Mans ?
Malheureusement, ça devient le quotidien. C'est ce que personne souhaite. Aucun soignant, ni du côté des urgences, ni du côté de la psychiatrie, ne peut souhaiter ça pour un patient. Et on se retrouve à en arriver là, à de la maltraitance en fait, des patients, faute de place en psychiatrie. Il faut savoir que ces personnes pourraient être prises en charge sans être attachées si elles étaient dans des locaux adaptés, comme c'est le cas en psychiatrie.
Avec du personnel.
Avec du personnel dont on manque aussi en psychiatrie, effectivement.
Quand ses propres actions, voyez, vos actions propres, deviennent de la maltraitance, alors que l'objectif que vous menez, eh ben, il est inverse. Normalement, là, on parle de soignants, ils sont là pour soigner, pas pour maltraiter. En organisant la pénurie de moyens, ce que nos soi-disant représentants font vivre au quotidien aux soignants et aux patients est inhumain. Oui, j'ose le mot. Baisser les impôts, en particulier des plus riches, et ce dès 2017. Payer la dette au lieu de la négocier à la baisse. Réduit la capacité de l'État à organiser les services publics nécessaires à la population. Et on retrouve le manque de moyens, les bricolages que doivent s'infliger les personnels et les conséquences sur les publics, dans la santé, mais aussi dans le social, dans l'éducation. Autant de secteurs d'activité qui ne doivent pas être le sujet de l'État pour les libéraux en économie qui nous gouvernent. Parce qu'on veut bien se laisser faire, c'est pour ça qu'ils nous gouvernent. Tout à coup, la logique apparaît. Mettre des libéraux en charge de gérer des services publics est criminel. Et là aussi, j'utilise ce mot. Et c'est pas le patient qui s'est suicidé aux urgences du CHU de Toulouse. En février, qui me démentira ? La suite au prochain épisode, a priori, un nouvel appel jeudi prochain. Pour ceux qui pourraient se rendre à l'hôpital pour soutenir les soignants. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, comme par exemple les massacres à Gaza. Hein, là, c'est ad nauseum, comme on dit. Hein. Une nouvelle manifestation a d'ailleurs lieu au Mans à 14h, place de la République, samedi 2 mars. Pour ne pas oublier ce qu'il se passe là-bas, mais une guerre organisée par un gouvernement d'extrême droite, élu démocratiquement par la majorité des citoyens israéliens. On aurait pu vous parler également du rapport de Mike Force, envoyé spécial de l'ONU, qui alerte sur les pratiques policières et gendarmesques dans la gestion des opposants écologiques, notamment ceux qui résistent dans les arbres à Saïx, dans le Tarn, sur le tracé de l'autoroute A69. Le même Mike Forst avait déjà envoyé un courrier aux autorités du Royaume-Uni en janvier, qui ont aussi des pratiques disproportionnées. On retrouve ça un petit peu dans toute l'Europe. Hein. Arrestations arbitraires, mises sur écoute, espionnage, violences répétées, peines de prison, etc. Devinez ? Eh ouais, à la tête des gouvernements, des libéraux. Bah oui, le but c'est quoi ? C'est l'économie et les ressources humaines. Bah les ressources humaines, elles se la ferment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des ressources humaines ? Franchement, elles sont là pour travailler et générer du profit. Alors bah, qu'elles veulent défendre à un moment la vie, l'écologie, les milieux, l'environnement. Pff, ça rapporte quoi ? Rien ? Bon bah écoute, on s'en fout, on leur envoie les flics. Et voilà comment ça fonctionne. Mike Forst se base sur la convention d'Aarhus, un bled danois, où fut signé le texte en 1998 par 39 États, dont la France. Dans son, je cite, ah oui c'est un papier de positionnement qu'il écrit, pas un rapport, il relate les harcèlements envers les militants, les brutalités policières envers les journalistes, dans les manifestations, en garde à vue, voilà, brutalité policière, tout ce que subissaient les populations des quartiers périphériques avant que ça soit étendu à toute opposition en France. Des faits qui sont révélés dans toute l'Europe. La fin du document sert à rappeler aux États leurs obligations vis-à-vis des populations. Dans cette convention d'Aarhus, le droit à l'information et à l'opposition du public à des projets qui ont un impact environnemental est indiqué noir sur blanc. Mais signer des conventions et faire des belles photos, hein, tu m'as vu, regarde, on est magnifique, hein, ouais, on est des dirigeants, regarde, on a signé un truc. Ah ça marche, ça c'est faire de la com. Eh ben c'est autre chose d'appliquer les textes. Hein. Si vous voulez plus d'infos à propos de l'A69, sur le site La Voix est libre, lvel.fr. Vous voulez aussi des informations sur le reste des routes qui ne servent à rien, sauf à générer du profit pour certains et à gagner du temps, ce qui franchement est l'objectif de qui dans la population, à part ceux qui ont les moyens de production. ladesroutesdesroutes.org. On aurait pu vous parler également de la propagande pour les JO, un classique depuis des années. Maintenant, les autorités, les médias nous bassinent les rouleaux avec la grand-messe nationaliste des JO. Seulement, comme à chaque manifestation, les opposants sont nombreux et ils n'ont pas la parole, mais ils servent quand même d'aiguillon localement en France et même à l'international. Alors, le service com occupe le terrain. Bah ouais, faut les vendre les JO, hein, parce que bon, il y a un certain nombre de trucs quand même, hein, des mises en examen, les billets très très chers, la multiplication du prix de tout pour vider les poches des bourgeois qui vont venir s'encanailler en disant « Ah, regarde, tu m'as vu, je suis à Paris pour les Jeux Olympiques. » Oui, alors, qui est-ce qui subit ça? La population, hein, forcément. Donc, le service com occupe le terrain et jeudi 29 février, par exemple, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep est allé se faire voir à Saint-Denis pour inaugurer le village olympique. Près de 3000 logements pour plus de 14 000 athlètes. Voilà des chiffres. Mais d'autres n'ont pas été demandés par les médias que j'ai pu consulter. Faut pas gâcher la fête. Par exemple, rien sur le nombre de logements HLM dans le Lot. Pour savoir hein, si ils cherchent la mixité sociale quand ils vont revendre les différents logements. Rien sur les accidents mortels ou graves qui ont eu lieu sur le chantier, que ce soit dans les entreprises directement choisies par la Solideo, qui est l'organisme qui s'occupe des constructions, dont une partie des dirigeants sont mis en examen d'ailleurs, pour corruption, forcément, sur ces trucs-là, il y a du pognon à se faire. Ou chez les sous-traitants, rien ne doit gâcher la fête, donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de problème de pauvreté, il n'y a rien de social. Non, il y a juste des athlètes, waouh. Et surtout pas la grève. Comment ça, surtout pas la grève? Mercredi 28 février, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, payé 270 000 euros. Par an, était l'invité de l'émission Les 4 Vérités sur France 2. Pourquoi je rappelle le montant de ces émoluments? Pour voir que forcément, il ne peut pas parler tout à fait de la même manière que quelqu'un qui est au SMIC.
Pour la première fois, un comité d'organisation a associé les syndicats. C'est-à-dire que au sein du conseil d'administration, on a Bernard Thibault qui siège, l'ancien patron de la CGT qui siège et qui a assisté à l'évolution du projet. On a mis une charte sociale en place qui a été signée par l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour, avec transparence, avancer avec eux. En gros, on s'est engagé sur un modèle plus sobre d'un point de vue environnemental. On veut quand même réduire de moitié les émissions carbone, mais aussi plus sobre d'un point de vue social et montrer le meilleur aussi
mais
de la France.
Mais est-ce que vous demandez une trêve sociale olympique pendant la durée des Jeux?
Moi, je la souhaite. J'ai envie qu'on accueille le monde dans les plus belles conditions et qu'on ne gâche pas la fête.
Ça peut gâcher la fête?
En tous les cas, moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on puisse trouver des solutions aux uns et aux autres qui vont travailler sur les Jeux. On a bien conscience qu'il y a des contraintes à l'organisation des Jeux. On peut pas accueillir le monde avec une telle ambition sans avoir aucune nuisance. Globalement, les gens ont envie, les gens jouent le jeu, les gens vont s'organiser pour que cette fête soit belle. Et on espère qu'elle le sera jusqu'au bout.
Ah oui, les gens s'organisent, les gens... Mais moi, j'aimerais bien savoir qui, hein, à part eux, là, à part ceux qui disent, nous, on veut accueillir le monde. Mais c'est l'objectif de qui, ça? La trêve est donc demandée dans la lutte des classes. Oui, trêve, bah, c'est du langage guerrier, c'est bien qu'il y ait une guerre, hein. Bah, oui, la lutte des classes, bah, on a beau nous faire croire qu'elle n'existe pas. Si, si, elle existe, hein, la guerre aux pauvres, on en a parlé dès le début de cette émission. Pour ne pas gâcher la fête du nationalisme sportif, une fête qui s'adresse surtout à des richoux qui viendront payer le prix fort pour dire « j'y étais ». Cette fête ne s'adresse pas aux habitants à qui il est demandé de rester chez eux, par exemple, pour ne pas encombrer les transports en commun. Mais le Pékin doit se sentir impliqué. Le même jour, sur France Inter, à 7h50, le ministre des Transports, Patrice Vergriette, est à la manœuvre. Et là, que nous dit-il ?
Est-ce que vous êtes inquiet sur le déroulement des Jeux en termes de transport ?
Absolument pas.
Absolument pas.
Absolument pas, parce que vous voyez, vous le disiez tout à l'heure, je viens d'une culture ouvrière. Et je ne crois pas un seul instant que des ouvriers, que les salariés, que les syndicats mettront en péril l'image de la France ou l'image de leur entreprise aux yeux du monde entier. Je n'y crois pas un seul instant, ce n'est pas du tout dans la culture ouvrière.
Ça signifie que s'il y a grève, on met les Jeux en péril ?
Il n'y aura pas grève.
Il n'y aura pas grève ?
Il n'y aura pas grève, c'est pas du tout dans la culture ouvrière. Ou alors je change de pays et je comprends plus rien au monde ouvrier. Mais très sincèrement, dans la culture ouvrière, on donne pas l'image de son pays. On est attaché à l'entreprise quand on est un ouvrier. On est attaché à son entreprise quand on est un syndicaliste. On est attaché aussi à l'image de son pays. Et je crois pas un seul instant qu'il y aura des grèves.
Nous voilà donc dans l'union sacrée. L'union sacrée réclamée par nos soi-disant représentants au nom de la France. Ouais, par patriotisme. Et même par culture ouvrière. Ouais, il va loin, lui, hein. Bah oui, son père était chaudronnier. Bon, lui non, hein, mais son père était chaudronnier. Donc la culture ouvrière, il a ça rivé dans le sang, l'autre. Mais de quelle culture ouvrière nous parle Patrice Vergriette ? Quel est cet attachement à l'image de l'entreprise et à l'image de la France dont il parle quand il parle des ouvriers ? Un peu plus tôt dans l'interview, il disait ceci à propos de la gauche de la Macronie, dont il se targue de faire partie.
Moi, je crois toujours en la capacité du dépassement du président de la République et du Premier ministre. Vous savez, je viens d'un territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, Dunkerque, dans lequel le président de la République a réussi à développer l'industrie, à réindustrialiser ce territoire. Il nous a rendu de l'espoir. 20 000 emplois qui arrivent à Dunkerque, un territoire qui perdait des habitants depuis presque 30 ans, un territoire où on voyait l'emploi industriel partir, diminuer. Ben ça, je suis désolé, si on ne dit pas que c'est de gauche, je ne sais pas ce que c'est.
Ah ben moi non plus, hein. Mais on comprend mieux tout à coup. La culture ouvrière dont il parle est celle des employeurs. C'est-à-dire qu'il parle depuis la place de celui qui va recruter des ressources humaines. Ah bah oui, c'est des collaborateurs, c'est vrai. Et donc ils doivent être attachés, ils doivent avoir la culture de l'entreprise. C'est pas la culture ouvrière, non, non. C'est celle en fait dont il parle, c'est celle qui réduit les salariés à des ressources humaines. L'industrie et ses bastions ouvriers, la répétition, le travail à la chaîne et les TMS qui vont avec. Voilà la gauche de Patrice Vergriette. Une gauche productiviste au service de la production. La bataille de la production du Parti communiste après la Seconde Guerre mondiale, voilà, on est là-dedans. Et des détenteurs de ces moyens de production, ouais, parce que là, dans le cadre de la collaboration de classe, Monsieur Thorez, il avait fait fort. Une gauche productiviste au service de la production et des détenteurs de ces moyens de production. Une gauche de droite, en fait, avec pour valeur centrale le travail. Patrice Vergriette, croyant de la religion macroniste, oui, il y croit, est autant de gauche que le four est au moulin. Ah, je sais bien que ça veut rien dire, mais c'est justement l'idée. En tant que personnalité politique de gauche, il devrait réviser ses classiques, le droit à la paresse, par exemple, de Paul Lafargue. Oui, par exemple, qui rappelle les valeurs marxistes et que la liberté s'acquiert quand le travail nécessaire est effectué. Le travail nécessaire, pas l'emploi permettant de générer des profits pour les employeurs. Et une fois que ce travail nécessaire, qui doit prendre quelques heures par jour, est fait, eh bien, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. La charte d'Amiens de la CGT, par exemple, charte adoptée au 9e congrès de la CGT en 1906, ça rappelle la culture ouvrière. Je cite, « La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. » Ah bah, aucun rapport avec ce que nous raconte Patrice Vergriette. « Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mise en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. » Voilà, c'est cette émancipation nécessaire qui est la culture ouvrière. La culture ouvrière n'est ni patriotique ni attachée à une entreprise. La culture ouvrière est la prise de conscience de l'exploitation capitaliste et la nécessité de lutter pour s'émanciper de cette exploitation. Alors si cette émancipation, eh ben, elle doit passer par gâcher une fête nationaliste, hein, fût-elle sportive, ben, faut pas s'en priver. Un collectif nous parle des JO et nous donne plus d'informations que ce que l'on peut entendre sur les médias les médias d'État et autres. Saccage2024.noblogs.org, plein d'infos sur le sujet. Saccage2024.noblogs.org et comment les JO saccagent en fait. Mais on va plutôt terminer. Un petit sujet sur la forêt. On aurait pu vous parler plein de trucs, mais on va plutôt parler de la forêt. Nous avons vu la dernière fois que les forêts sont de plus en plus remplacées par des plantations de résineux qui poussent vite, tous bien alignés pour être plus faciles à abattre, alors que la forêt est un écosystème habité par des espèces vivantes, animales et végétales, et que les forêts nous rendent bien des services à nous les animaux humains qui passons notre temps à bousiller les milieux de vie. Tiens, lundi 26 février sur la 5e chaîne, dans l'émission Sur le front, le sujet était les forêts, une émission où l'on apprend ce que sont les coupes rases, les plantations, le gaspillage d'argent public donné aux propriétaires forestiers et le caractère bidon des annonces macroniennes. Bon, bah ça, on le savait déjà, mais quand même, j'en passe et du pire. À voir sur le site France.tv, vous cherchez sur le front. Mais revenons à nos forêts. Et surtout, comment les habitants peuvent lutter contre les dégradations au profit des plantations? Écoutons pour la dernière fois Alain Persuit, rencontré en janvier 2024 à la librairie Thuard.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen, là, rapidement, facilement, enfin je ne sais pas d'ailleurs, même plus difficilement, pour essayer de sauver les forêts?
Oui, mais c'est un peu le sous-titre de mon livre, c'est-à-dire Petit Manet de résistance citoyenne. Tout le monde n'est pas propriétaire de forêt, n'est pas technicien forestier, n'est pas ingénieur forestier. Par contre, quand on achète du bois, eh bien on regarde s'il y a un label. Et il y a des labels qui sont de qualité, il y a des labels qui sont vraiment pas de bonne qualité, donc ça je l'explique. Quand on achète du bois pour se chauffer, mieux vaut acheter du bois bûche venant d'une forêt exploitée traditionnellement que du pelet qui vient de plus en plus de forêts exploitées d'une manière industrielle. Quand on a des députés qui nous représentent, eh bien on les interroge pour savoir s'ils sont d'accord pour faire évoluer la loi forestière dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Il y a tout un tas de... Il y a la création de groupements forestiers. Je fais partie d'un groupement forestier pour défendre les feuilles du Morvan. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter une forêt de 500 hectares. On s'est réunis, par exemple, dans le Morvan. On est 1200. On est propriétaire de 470 hectares de forêt, de feuillus, qu'on a sauvés de l'enrésillement massif. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. L'achat d'une part de groupements forestiers, c'est pas très onéreux. Donc n'importe qui peut le faire.
Ah oui, des petits trucs comme ça, mais aussi par exemple bûche plutôt que pelet. Oui, les pelets, ce sont les granulés de bois. Fabrication à partir de déchets de bois, des tiges de maïs par exemple, du bois broyé, compressé, avec parfois des additifs pour qu'ils se tiennent mieux, ces granulés. Ça peut pas dépasser 2% du poids du produit sec pour respecter la norme allemande DIN+, qui est la meilleure, la plus contraignante dans l'Union européenne. Bon, pour un kilo, ça fait 20 grammes de trucs qui va brûler dans ton poêle, des additifs, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Pour une tonne, on arrive à 20 kilos quand même. La bûche, faut la couper, mais c'est beaucoup plus sain que le pelé et moins énergivore, parce que le pelé, il a fallu le fabriquer. 2 à 3 kilowatts d'énergie consommée pour produire des granulés qui vont rendre 10 kilowatts d'énergie pour le chauffage. Encore, je compte pas le transport, donc beaucoup d'énergie gaspillée pour produire de l'énergie. Alain Persuit parlait aussi de groupements forestiers, achat de parcelles de feuillus pour les protéger comme dans le Morvan, mais aussi plus près de chez nous, un exemple entre Anjou et Limousin avec l'association Aux Arbres Déchaînés. Vous avez un site tout attaché ausarbresdechaînes.com. Il existe donc une autre façon de penser nos rapports avec le reste du vivant. La nature dont nous faisons partie n'est pas un agrégat de ressources à exploiter pour accroître encore et toujours nos revenus. C'est de la vie. C'est de la vie qui contribue à la nôtre. Aussi, dans un égoïsme bien compris, il convient de cesser d'abîmer nos milieux de vie. Parce que sinon, on est en train de détruire l'humanité. Et la seule solution, c'est de devenir anticapitaliste. Oui, clairement. Et détrôner les libéraux qui nous gouvernent. Pour enfin remettre l'économie à sa place et développer nos liens avec notre environnement. Voilà, c'est dit. Moi, je préférais qu'on fasse comme ça. Sans transition, on aurait pu vous parler de ceux qui se battent contre les chronolignes pour éviter qu'il y ait 400 arbres qui soient abattus dans le Mans. Mais voilà, on n'a plus le temps. Alors du coup, on vous renvoie par exemple sur sarthe.demosphère.net. Et puis, n'oubliez pas l'allumette, cette rue de la Marne, ça existe. C'est un centre social associatif. Il y a plusieurs associations qui sont là-bas. Et puis c'est ouvert le mercredi et le samedi après-midi. Allez les voir, allez faire un tour. Et puis renseignez-vous pour voir comment vous pouvez participer. ou en profiter, ouais, puisque c'est au service de la population. Tiens, ça change un peu des trucs au service de la population. Bon, en attendant de se retrouver, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.